Ce que je voudrais tout d'abord, c'est vous dire que j'approuve entièrement votre projet de garder en mémoire l'histoire de ces nouvelles techniques de communication au sein de l'enseignement supérieur et en particulier au niveau du ministère. Car pour moi, qui ai maintenant un certain âge, conserver une trace du passé est quelque chose d'important. Alors que bien souvent, pour les plus jeunes, on considère ça comme sans intérêt, car on veut aller très très vite. Et pourtant, l'histoire s'écrit avec des souvenirs, qu'on le veuille ou non. Et cette histoire devrait servir à mieux organiser l'avenir, à condition que l'on en tire de salutaires leçons. Donc bravo, bravo pour ce travail de mémoire auquel je suis heureux de participer en apportant mes souvenirs. Des souvenirs qui sont vieux de plus de 70 ans en ce qui concerne mon entrée dans la carrière et à peu près de 40 ans lorsque j'évoque mon entrée à l'enseignement supérieur. Mais ces souvenirs sont très vivants dans ma mémoire et surtout j'ai un certain nombre de documents écrits qui permettent d'en attester la véracité. Et c'est pour cela que je pense que mes souvenirs, quelque modestes qu'ils soient, peuvent servir à écrire l'histoire que vous avez envisagé d'écrire, je devrais dire, en utilisant les nouvelles techniques de communication qui sont en honneur aujourd'hui. Et je pense qu'il en est bien ainsi. Et maintenant, pour entrer dans le sujet, vous m'avez dit de vous expliquer qui je suis. Vaste question. Et pour répondre, je ne voudrais retenir que les éléments qui expliquent pourquoi, dès mon arrivée au ministère des universités, j'ai eu à cœur de participer activement à l'organisation de ces nouvelles techniques de communication dans l'enseignement supérieur. Au cours de ma vie, qui a été déjà longue et bien remplie, je puis dire que j'ai été et que je suis encore un enseignant, éducateur, chercheur. Si je réfléchis bien justement à cette vie, je constate que le fil conducteur a été et est encore le désir d'apprendre toujours et d'essayer de transmettre le plus efficacement possible le modeste savoir que j'ai acquis ainsi. Et ce, quel que soit le domaine des connaissances que j'aborde, et les publics concernés qui sont variés, même encore aujourd'hui d'ailleurs, enseignement public d'abord, instruction militaire ensuite, groupes sociaux les plus variés de jeunes, d'adultes, de personnes âgées actuellement ou de personnes handicapées. Et comme je m'étais aperçu très tôt que les méthodes actives et par suite les techniques de communication de tous ordres étaient propres à dynamiser l'enseignement et à le rendre plus efficace, je les ai utilisées très 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 largement sur le plan technique et sur le plan pédagogique. Cela a commencé, je vous l'ai dit, il y a bien longtemps, à l'École normale d'instituteurs de Nice. J'appartenais à la promotion 31-34. C'était l'époque où les méthodes actives de Freinet étaient en plein développement. Je les ai utilisées d'abord à l'école annexe de l'école normale, puis durant ma première année d'instituteur, car je n'ai exercé que dans les classes primaires, et en particulier des CP. J'ai été tenté dès le départ de me lancer vers ce que l'on appelait à l'époque la phonomimie, c'est-à-dire un système audio, visuel et gestuel. C'était intéressant parce que le jeune enfant s'amusait un petit peu en apprenant avec ce système et surtout il pouvait se dépenser et laisser de côté son trop plein d'énergie pour vraiment s'attacher à l'étude de la lecture, de l'écriture ou du calcul. Puis ça a été l'époque du service militaire. Comme j'étais né en octobre 14 et que j'appartenais donc à des classes creuses, je devais accomplir 2 années de service militaire. Alors j'ai eu l'idée, tout en enseignant, de me préparer à cette entrée dans le service militaire, et j'ai suivi une formation très 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 particulière qui a été menée en 2 étapes, si je puis dire. D'abord, l'apprentissage du système de télégraphie Morse, qui était un système basé sur un alphabet conventionnel de traits et de points. C'était à l'époque le nec plus ultra. Les moyens de communication, d'ailleurs, ils étaient tellement bien qu'il n'y a pas très très longtemps qu'on l'utilisait encore. J'avais envie d'être incorporé dans un régiment de transmission, et par conséquent, dans ces régiments-là, à l'époque, il y avait des compagnies de colombophiles. Tout naturellement, j'ai donc été amené volontairement à acquérir des notions sur l'éducation des pigeons voyageurs et leur emploi pour la transmission des messages. Vous voyez que c'était donc assez varié. Et grâce à cette double formation très très particulière, j'ai pu être incorporé en 1936, en octobre, non, 35, pardon, au 28e régiment de transmission de Montpellier. Alors là, je suis tombé sur un commandant de compagnie qui était, j'allais dire, très dans le vent, puisque il a immédiatement décidé que je participerais comme enseignant, avec quelques autres enseignants du contingent, à la préparation des sous-officiers du régiment, sous-officiers qui se destinaient à entrer comme officier dans une école qui, à l'époque, l'école des transmissions, était à Nancy. Donc, j'ai participé à l'enseignement. Et puis, en contrepartie, il a décidé de m'inscrire d'office au concours d'entrée d'une école d'officiers de réserve. Et il m'a laissé un peu de temps pour m'y préparer. Ben, ça a été le début de ma carrière d'officier, car j'ai été admis en avril 36 à l'école militaire de l'intendance qui à l'époque était située dans le vieux fort du château de Vincennes. J'en suis sorti sous lieutenant la même année, et comme j'étais sorti en bon rang, j'ai pu choisir un établissement militaire de la région de Paris, et j'ai été affecté à Saint-Cyr-l'École. Alors là, dans ce service de l'intendance qui est peut-être mal connu, il y avait une branche particulière qui avait une double casquette, si je puis dire. D'une part, s'occuper du ravitaillement des troupes, et d'autre part, de commander les troupes du service. Ces troupes-là, bien sûr, étaient incorporées comme les autres recrues, mais passaient par un stade de centre d'instruction, puis un centre d'application à l'intérieur des établissements. Et cela m'a amené, à, tout au long de ma carrière, si je puis dire, à pouvoir à la fois diriger des établissements et surtout commander des centres d'instruction, dans lesquels, bien sûr, j'ai pu donner ma pleine mesure de ce goût, à la fois de l'enseignement et des méthodes modernes. Alors, vous pouvez vous poser peut-être la question, mais pourquoi je n'ai pas réintégré l'éducation nationale à la fin de mon service militaire? C'eût été normal. Eh bien, je suis un petit peu gêné, car nous sommes amenés à évoquer un problème qui a été très très important dans la vie des instituteurs, qui n'est peut-être pas gardé en mémoire, justement, des classes, des générations nouvelles, mais que, pour la fidélité que je portais à ce corps des instituteurs, je me dois d'évoquer rapidement. Nous étions donc en 37, et j'étais fiancé à une jeune enseignante de Paris, d'ailleurs qui, très curieusement, habitait ce quartier, et allait donc aller à l'église qui est toute proche. Donc, cette jeune fille enseignante à Paris, j'ai décidé, nous avons décidé très vite, de nous marier ensemble. Donc, j'ai demandé et obtenu un an de service militaire en plus, de façon à prévoir mon transfert de Nice à Paris. Et je me suis marié d'ailleurs en avril 1938, donc durant cette période. Mais malheureusement, bruit de bottes au-delà des frontières, à la mi-de 1938, peu de temps après mon mariage, et accord de Munich. Ce fut le début d'une série de difficultés pour la France, car dès septembre 1939, mobilisation, déclaration de guerre, départ aux armées. Là, je vous ai dit que j'étais dans l'intendance, mais l'intendance étant le service que j'avais choisi étant considéré comme une arme, je suis parti avec la 10e division d'infanterie, qui était celle de Paris, et je suis allé dans l'Est. Ça a été une des rares divisions qui sont rentrées en Sarre et qui, quelques jours après, sont revenues dans la région de Metz, Briey, etc. Alors là, drôle de guerre, une période qui a été assez curieuse pour beaucoup de Français, qui ont d'ailleurs ignoré même qu'il y avait une guerre. Et cette drôle de guerre s'est achevée, comme vous le savez, par une débâcle. Un exode brutal qui a jeté sur les routes énormément de gens, mêlés aux militaires. Et cette débâcle a été conclue ensuite par l'armistice. Comme j'avais été blessé en mai 40 dans la région de Rethel, car ma division était allée renforcer et essayer de colmater la brèche de Sedan, j'étais blessé donc, et j'avais été évacué sur l'hôpital de Biarritz, et c'est là où l'armistice m'a trouvé. Étant officier de réserve, je devais être démobilisé, j'ai donc pris contact avec mon inspecteur d'académie, et ce par l'intermédiaire du directeur de l'école normale, avec qui j'avais conservé d'excellentes relations. Et alors ici, pour être très précis et montrer que je ne signale que des choses vraies, c'est que je vais évoquer deux ou trois lettres que j'avais échangées avec ce directeur. Ce directeur, le 1er septembre 40, donc vous voyez, on était encore dans une période très instable, m'écrit. « Mon cher Desprats, la situation des personnels est assez critique. Elle s'améliorera sans doute au moment de la mise en application de la loi sur la nationalité. Il y aura des départs très douloureux. » Et le 1er octobre 40, donc un mois après, nouvelle lettre, il me dit « La situation s'est bien compliquée. On vous reprendra certainement. Mais je crois qu'il serait préférable et prudent de rester 3 mois de plus dans l'armée si vous en avez la possibilité. Nous venons de reprendre les cours, mais avec les 2e et 3e années seulement, car les écoles normales viennent d'être supprimées. Nous liquidons, et c'est bien mélancolique. » Alors, pourquoi cette pénible situation? Eh bien, c'est que dès septembre 40, donc un peu de temps après l'armistice, les instituteurs, comme un certain nombre de catégories de personnes, telles que les francs-maçons, les juifs, des élus municipaux, des syndicats, certains partis politiques, ont été dans le collimateur du nouveau gouvernement. Alors, aux instituteurs, on a reproché de ne pas avoir éduqué correctement la jeunesse qui leur avait été confiée, et surtout, comme il y avait à peu près 48% d'instituteurs officiers de réserve dans un certain nombre de corps d'armée, on les a accusés de défaitisme pendant cette drôle de guerre. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Et c'est ainsi que, ne pouvant réintégrer mon corps d'origine, je suis resté dans l'armée, alors qu'étant instituteur, j'étais par définition enragé. La vie a quand même parfois de ses bizarreries. Hein. Et la chose la plus étonnante, c'est que, à cette époque, nombre ont été les instituteurs qui sont passés et qui sont entrés dans l'armée active, et qui ont en général accompli une carrière plus qu'honorable. Donc voilà un point d'histoire qui était important peut-être à évoquer, parce que cette situation des instituteurs m'a énormément perturbé, si je puis dire, au début de ma carrière. Mais comme j'avais acquis des réflexes d'enseignant, je rends hommage aussi aujourd'hui à ce corps des instituteurs et en particulier aux écoles normales sous la forme que j'ai connue. Après la drôle de guerre, donc, c'est la période de la résistance, je n'insiste pas. Une résistance qui a commencé en novembre 1942 lors de l'entrée des Allemands en zone libre et qui s'est achevée à la libération du territoire, c'est-à-dire en août 1944. Et le 8 mai 1945, j'étais à Châteauroux à ce moment-là, et c'était donc la fin d'une période très douloureuse, très cauchemardesque pour ma famille et pour moi. Alors là, j'ai décidé avec ma femme de prendre le large. J'avais déjà un enfant qui était né à Grenoble, et j'ai demandé mon affectation aux troupes du Maroc. Et c'est là le commencement d'une longue période durant laquelle je me suis consacré de plus en plus à l'instruction militaire et technique des recrues et des sous-officiers de mon service. Puis je suis parti en Allemagne, et cela dans la région de Fribourg. Là, ça a été le couronnement de ma carrière, car j'ai reçu le commandement d'un centre qui était très important, situé en pleine forêt noire, et là, le nombre d'actions que nous avons menées est très importante, et vont expliquer justement mon passage à l'éducation nationale dans la branche où vous m'avez connu. C'est une période donc très 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 riche en recherche pédagogique et technique adaptée à une grande variété d'élèves. Je vous en donne quelques exemples. Avec les enseignants du contingent, officiers, sous-officiers ou même simples soldats, nous avons à ce moment-là organisé à plusieurs niveaux. Tout d'abord, nous avons créé un enseignement aux illettrés du contingent pour leur donner au moins les notions de base de lecture, écriture et calcul qu'ils n'avaient pas. Car il y avait, et il y a malheureusement encore, plus de 10% d'illettrés de cette catégorie. Donc, l'intérêt du système était de mieux insérer ces jeunes dans l'ensemble des recrues. Et nous avons eu beaucoup de joie, car découvrir qu'après quelques mois de travail, le soldat est capable d'écrire tout seul un petit mot à sa famille et qu'il en est heureux, ben, ça récompense à la fois de tous les efforts que lui a fait et que ses moniteurs ont également accomplis. Alors vous doutez bien que pour ce genre d'enseignement, justement, nous avons été amenés à chercher un certain nombre de méthodes actives qui étaient absolument nécessaires pour ce type d'élèves. Et comme j'avais fait le cours préparatoire, j'ai adapté mes méthodes techniques actives à ce groupe de recrues. Une autre catégorie d'élèves, il y en avait énormément qui, à cette époque, n'avaient pas le certificat d'études et qui voulaient profiter justement de leur passage sous les drapeaux pour reprendre ses études interrompues et, si possible, passer le diplôme. Donc, je me suis mis en rapport avec l'inspecteur d'académie de Strasbourg et nous avons organisé toute une série de sessions spéciales. Et alors là, les résultats ont été très très bons, ils ont largement dépassé nos espérances. Et bien là aussi, il fallait utiliser des méthodes d'enseignement et même des moyens, je vais évoquer, des moyens bien adaptés, car il ne faut pas décourager ce type d'élèves si on veut aller jusqu'au succès. Dernier exemple, mais qui montre bien que nous essayons de chercher le maximum de moyens pour l'instruction. Pour l'instruction technique, nous avons, dès le début de 1952 à peu près, utilisé un système très simple du type rétroprojecteur. Et nous avons bricolé un système avec une table lumineuse sur laquelle était posé l'objet à examiner. Au-dessus, il y avait une glace en plan incliné, tournée vers les élèves, et qui reflétait l'image. Si bien que les élèves qui étaient tout autour de la table pouvaient suivre d'une façon beaucoup plus claire et beaucoup mieux comment monter par exemple une mayonnaise pour les cours de cuisine, nous l'avons utilisé, ou pour l'enseignement auto, la partie mécanique, comment démonter par exemple un carburateur. Donc c'était un système très très simple, d'ailleurs que j'avais un peu emprunté à l'armée américaine qui œuvrait dans le sud de l'Allemagne, mais toujours ce souci d'aller vers l'avant. Cette simple évocation montre que pendant 30 ans, si vous voulez, j'ai sans arrêt eu ce souci présent à mon esprit, et que par conséquent, lorsque j'ai pris contact avec l'enseignement supérieur, j'étais déjà bien acquis aux techniques et aux méthodes nouvelles d'enseignement et de communication. Et bien sûr, j'étais tout disposé de mettre la totalité de mon énergie au service des établissements de l'enseignement supérieur. Alors, en 1963, nouvelle étape de ma carrière, on va dégager les cadres, officiers, sous-officiers. Les guerres se sont achevées, ou paraissaient achevées. Les méthodes changeaient, on avait besoin de beaucoup moins d'effectifs, officiers et sous-officiers. Donc une loi de dégagement a été votée en 1963, a touché un grand nombre de personnels. Et comme j'étais à l'époque au ministère de la Défense nationale et que j'étais chargé de la gestion des personnels officiers, sous-officiers d'actifs et de réserve de mon service, j'ai participé à l'élaboration de cette loi. J'allais avoir 50 ans, j'avais un problème familial que j'évoquerai sans doute plus loin, et bien que ma carrière s'annonçait sous des auspices très favorables, j'ai préféré rester à Paris pour régler ce problème familial qui, pour ma femme et pour moi, était crucial. Il faut quelquefois savoir abandonner même les étoiles pour redescendre sur Terre. Et le 1er octobre 1964, j'ai donc été mis à la disposition de la direction des enseignements supérieurs. Alors là, très très important, et ça montre que le réseau existait déjà et va se développer, l'accueil a été très chaleureux. Le directeur, M. Aigrin, était un ancien officier de marine qui était devenu professeur et chercheur au CNRS. Il a fait d'ailleurs une carrière que vous connaissez tous. Et le directeur adjoint, qui était un officier de réserve de mon service, M. Rachou, m'a accueilli également à bras ouverts. Première affectation qu'ils m'ont donnée, qui semble ne pas avoir de lien avec ce que nous allons dire plus tard, mais qui quand même a été une étape importante de ce cheminement. J'ai été affecté donc au bureau des concours et examens nationaux. Il s'agissait en gros des concours d'entrée aux grandes écoles, école normale, supérieure bien sûr, école de physique, chimie et de commerce. Alors les examens nationaux, eux, concernaient davantage les spécialités de médecine et de pharmacie. Ce bureau était chargé de toutes les opérations de l'admissibilité, c'est-à-dire de préparer, depuis la collecte, si vous voulez, des sujets pour l'examen écrit, correction, jury, etc., je passe, vous connaissez le système, pour arriver jusqu'aux listes d'admissibilité. À ce moment-là, c'était les écoles qui s'occupaient des candidats qui avaient été admis à leur école. Alors, la première constatation, c'est que on ne semblait pas rechercher une efficacité dans l'organisation des examens et que chaque école avait ses sujets, son jury et bien sûr tous les problèmes administratifs qui vont avec cette préparation. Alors ça m'a paru bizarre et j'ai fait la constatation suivante, avec d'ailleurs le concours de la plupart des enseignants avec qui j'étais rentré en contact, si on essayait d'établir un concours commun, j'entends, pour les épreuves d'admissibilité. Et chose intéressante, c'est qu'ils ont répondu à mon attente. Je me suis dit, donc, et ça va servir plus tard, si déjà ils sont prêts à coopérer, pour la suite, ça devrait coller. Et, comme vous en doutez bien, nous avons instauré un système qui permettait d'établir des épreuves communes. Et bien, les épreuves d'admission étaient toujours réservées à chacune des écoles. Donc, contact double. D'une part, beaucoup de professeurs qui ont été touchés, avec lesquels je rentre en contact, car pour constituer les jurys, pour les corrections, pour les admissibilités, souvent après ils m'invitaient pour les admissions, donc un réseau de correspondants s'est établi à la faveur de ces divers contacts. Deuxième constatation, c'est justement cette disponibilité qu'ils avaient à se regrouper, à coopérer entre eux, et par conséquent, ça me rassurait pour l'avenir. Donc, toutes ces expériences, au cours de ma carrière d'une part, et cette première affectation, m'ont permis de voir qu'on pouvait éventuellement se lancer dans des opérations assez de grande importance. Alors, en 1966, je transmets ce bureau qui était maintenant un peu mieux organisé. Tout n'était pas fait, bien sûr, hein. Mais je l'ai transmis à un de mes camarades officiers qui, à son tour, intégrait l'éducation nationale. Et le directeur m'a confié la responsabilité d'un bureau de la direction des enseignements supérieurs, mais qui s'appelait la direction des affaires générales et financières. Deux mots importants, générales et financières. On va le voir. Alors ce bureau avait l'intérêt d'être en prise directe avec le directeur adjoint des enseignements supérieurs, qui, je l'ai dit, était un ami. Là, ça n'était pas un professeur, c'était un administratif, mais, disons, digne de l'ENA, qui, à l'époque, était simplement en train de se mettre en place. Ce directeur, M. Rachoux, m'a dit, bon, dans un premier temps, écoute, ça sera peut-être pas palpitant, parce que tu vas assurer le secrétariat du conseil de l'enseignement supérieur. À titre secondaire, ce bureau s'occupe d'un certain nombre de petites choses, me dit-il, ce qui prouvait qu'on n'avait pas mesuré l'intérêt de ce bureau. À titre secondaire, il s'occupe d'un certain nombre de centres de téléenseignement, de droit et de lettres, gérés alors par les facs du Panthéon et de la Sorbonne. Car les émissions de Radio Sorbonne n'étaient pas de son ressort. Il avait quelques faibles crédits pour la mise en place et l'entretien des matériels qui étaient vraiment lancés à cette époque-là, qui étaient les laboratoires de langue, matériels qui étaient très très largement utilisés dans les facs de lettres et dans quelques autres disciplines, mais beaucoup moins importantes. Donc, ces nouvelles attributions m'ont fait rentrer quand même en contact avec justement tous les membres du Conseil de l'enseignement supérieur. J'étais déjà rentré en contact avec des professeurs par le canal du bureau précédent, et ce réseau petit à petit s'établissait. Il s'établissait par des contacts réguliers, car, je répète, dès cette époque-là, j'allais dans les établissements. Il y avait quand même un petit organisme, ou plus exactement des liens, des tout petits liens avec un grand organisme, puisqu'il s'agit du Centre audiovisuel de Saint-Cloud. Et là, j'ai trouvé un certain nombre de correspondants, tels que Lefranc, Valérien, Bourreau, et bien sûr Rubenac, Jacques Rubenac. Au CAV, il y avait de nombreux ex-instituteurs. Parmi ce que je viens de citer, il y en avait déjà, et j'ai retrouvé un ami, Poinsac, qui lui était de la même école normale que moi. Donc vous voyez que réseau qui s'étend, mais réseau avec des personnalités qui correspondaient un petit peu à des gens avec qui je pouvais rentrer en contact et développer quelque chose si nous étions d'accord. Alors, en 1934, d'ailleurs, je signale que mon directeur d'école Normale de Nice avait envisagé de me diriger vers le concours d'entrée à Saint-Cloud, et par conséquent, j'aurais pu éventuellement devenir cloutier si le sort m'avait réservé cette fonction. Mais j'étais donc un petit peu en famille, hein. Surtout avec Saint-Cloud, où les autres professeurs, bien sûr, étaient d'une place, d'un niveau supérieur, car je n'étais que primaire. Mais enfin, chacun a eu à cœur à la fois de m'accueillir et de m'aider, comme nous le verrons tout à l'heure. Et j'ai surtout trouvé, à cette époque-là, Jacques. Jacques, qui était jeune, dynamique, il est d'ailleurs toujours resté. Et il est devenu très très rapidement mon conseiller technique privilégié. Je signale ça parce que non seulement il s'occupait un petit peu des moyens audiovisuels, des quelques moyens audiovisuels qui étaient dans les universités, mais il va m'aider à faire un pas de plus. Car le secrétariat du Conseil de l'enseignement supérieur fonctionnait bien, mais il fonctionnait d'une manière archaïque. On prenait des notes en séance à la main, papier-crayon. Or, chacun sait que les discussions dans ce type de conseil sont en général très techniques, donc difficiles à suivre pour des non-spécialistes. Et de plus, elles sont souvent très vives, touffues. Et pour rédiger des procès-verbaux fidèles, ça n'était pas très facile. Donc, avec l'accord de mon directeur et de la majorité des membres du conseil, dont il fallait bien sûr obtenir cet accord, nous avons, avec Rubenac, réalisé une étude avec une société spécialisée pour équiper le conseil d'un enseignement mobile qui comprenait un ensemble de micros et un magnétophone. C'était sans doute une toute petite révolution, mais déjà une révolution, car tout ce que je dis, bien sûr, il faut le situer dans le temps. Hein. 70 ans tout à l'heure, nous en sommes à 40 ans maintenant. Donc ce premier essai a été transformé et ça m'a donné, si vous voulez, un petit peu l'envie d'aller plus loin. Alors j'ai recruté un officier qui avait été un de mes adjoints au ministère de la Défense nationale, M. Petit, et lui a pris en charge la partie secrétariat du Conseil, donc une des missions du bureau. J'ai pu ainsi disposer de beaucoup plus de temps pour la tâche qui me tenait le plus à cœur, le développement justement des techniques nouvelles de communication. Et alors là, fin 66, la situation était en gros la suivante. À l'échelon ministériel, le bureau ne constituait pas une structure qui était capable d'œuvrer efficacement dans ce domaine. J'ai indiqué ces missions qui étaient pratiquement inexistantes dans l'audiovisuel. Quant aux moyens, ils étaient inexistants. Dans les facultés et les établissements de l'enseignement supérieur, là, il y avait quand même quelque chose qui était déjà en place. Ils disposaient souvent de laboratoires de langue, mais il y avait très très peu de circuits fermés de télévision, sauf les facultés de médecine comme Cochin, comme l'Hôtel Dieu, la Salpêtrière, ou l'école dentaire de Paris. Mais chacun œuvrait dans son secteur, et comme tout à l'heure les écoles que j'ai évoquées pour les concours, chacun travaillait dans son secteur sans lien, sans aucune coordination entre elles. Alors là, pour moi, ça me paraissait aberrant, étant donné que toute ma carrière avait été faite justement sur le système des liaisons. Alors seul le CAV de Saint-Cloud, le CNAM, le service du film de la recherche scientifique dont on parlera un peu plus tard, et le comité interministériel audiovisuel santé fonctionnaient efficacement. Mais, c'est là qu'est le mais, c'est que le CAV était surtout en phase avec le CNDP. Il ne jouait qu'accessoirement le rôle de conseiller du bureau du ministère. Le CNAM, lui, était tout à fait autonome. Le SFRS, le comité audiovisuel de santé, était rattaché au CNDP pour des motifs administratifs et techniques. Donc, il n'était pas en prise directe avec un bureau de l'enseignement supérieur. Le téléenseignement universitaire, lui, lancé sûrement, mais était réduit à peu de choses. Il balbutiait donc encore, et surtout, malgré qu'il y ait peu de centres, encore aucune liaison. Système donc qui fonctionnait qu'à un cas, et personne n'éprouvait le besoin de modifier cette organisation, surtout pour le rendre plus efficace. C'était le vide. Mais cette terre un petit peu vierge allait nous permettre de travailler. Il est vrai que tout ceci demandait un sérieux effort au chef de bureau responsable et que rien ne l'obligeait à faire cet effort. Le succès n'était pas assuré et le chemin était plein d'embûches. Alors mes chefs directs, eux, étaient ouverts à tous les projets d'avancer en ce domaine. Je me suis donc lancé. Et avec quelques membres du CAV, des professeurs, des techniciens de l'audiovisuel que j'avais rencontrés depuis 2 ans au cours de mes tournées à travers la France, nous nous sommes réunis et nous avons réfléchi à la marche à suivre. Il fallait donc tout d'abord définir une véritable politique, ce qui devait nous permettre d'obtenir un budget pour appliquer cette politique. Premier contact donc au sein du ministère avec les décideurs de l'époque. Je citerai très peu de noms pour n'oublier personne. Au cabinet du ministre, j'avais un interlocuteur de poids qui était Bianchieri. C'était un ex-instituteur de ma région d'origine. Il connaissait bien l'audiovisuel. D'emblée, il a été d'accord pour qu'un projet soit établi. J'ai dit tout à l'heure que j'appartenais à la direction des affaires générales et financières. Le responsable était M. Seyité, le mari de celle qui deviendra Mme le ministre, Sonia Seyité. Comme j'avais des liens très amicaux avec lui, il m'a demandé d'établir un projet le plus précis possible, détaillé, chiffré, afin qu'une ligne budgétaire lui soit ouverte. Donc, avec les conseillers dont je m'étais entouré, nous nous sommes mis au travail. Et là, je tiens à préciser tout de suite que si l'idée et le désir peut-être d'organiser ces NTC au sein de l'enseignement supérieur m'était personnel, la mise en place du système a été une œuvre collective de personnes qui se sont données corps et âme pour en assurer la réussite. Et aujourd'hui encore, je remercie tous ces artisans de la première heure. Sans entrer dans le détail des travaux préliminaires, voici l'organisation que nous avons adoptée et proposée. Elle était la suivante, très simple, comme architecture. Au niveau de l'administration centrale, créer un bureau vraiment chargé de 4 missions essentielles. Tout d'abord, c'était le plus simple, puisque quelque chose existait, développer le téléenseignement universitaire afin d'ouvrir le plus largement possible l'université vers le monde extérieur. Deuxièmement, définir une politique audiovisuelle valable, allant jusqu'aux équipements lourds et créer un ensemble de personnel capable de conduire cette politique que nous aurions définie. Troisième idée, assurer la rénovation pédagogique par des actions de recherche qui étaient conduites par les universités, mais avec l'aide financière du ministre. Et dernière idée, mais qui me paraissait, au moins qui me paraissait à moi, la plus importante, établir une véritable coordination entre tous les établissements concernés, afin d'accroître leur efficacité, tout d'abord par des liens associatifs, puis par des rencontres et des échanges. Ce bureau me paraissait indispensable, car il n'y avait rien en face des universités, et toutes les tentatives qu'ils faisaient étaient pratiquement vouées à l'échec, car ils n'avaient pas de répondant. À l'échelon national, nous avons d'abord essayé de faire du CAV de Saint-Cloud vraiment le conseiller technique et pédagogique, d'en faire un correspondant officiel au niveau du bureau du ministère. Cela nous permettait de lui confier la production des films d'enseignement supérieur, destinés aux universités d'ailleurs, et les films qui étaient préparés pour les émissions de télévision universitaire et universitaire, et les enseignements post-universitaires médicaux dont je dirai un mot. Deuxième, après avoir envisagé la mission de Saint-Cloud, nous avons étudié une deuxième phase qui était d'établir des liens plus directs entre la direction des enseignements supérieurs, le service du film de la recherche scientifique et le comité audiovisuel santé. Cela me permet de dire que le service du film de la recherche scientifique produisait des films de recherche scientifique et distribuait ces films, ce qu'il faisait, et ceux de Saint-Cloud, à tous les établissements d'enseignement supérieur français et étrangers. Pour l'étranger, il était d'ailleurs en relation avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Établir également des liens avec le comité audiovisuel santé, car là, c'était le CNDP qui assurait l'exécution des programmes. Mais pour nous, l'organisme était important, car il possédait l'inventaire de tous les documents audiovisuels qui existaient dans le domaine médical et paramédical. Il avait toute une série de fiches qu'il distribuait d'ailleurs aux utilisateurs potentiels. Et ceux-ci, bien informés, pouvaient alors se procurer les documents disponibles. Dans notre projet, je précise tout de suite que il ne s'agissait pas de distendre les liens entre le CNDP et les enseignements supérieurs, mais au contraire, de les renforcer en créant ce bureau responsable qui devenait son partenaire officiel. Donc des liens vraiment structurels qui permettaient d'œuvrer correctement, efficacement, entre tous les établissements qui avaient envie d'aller de l'avant. Au niveau des universités, là, étant donné que je connaissais déjà beaucoup de personnes et que j'avais estimé que ces personnes étaient capables d'aller de l'avant également, nous avons eu l'idée de créer dans chaque établissement un centre audiovisuel qui joue le rôle d'un service commun, donc au profit de tous les éléments de l'organisme qu'il représentait, tels que départements, UR, etc. Car au début, nous avions affaire à des facultés, puis après à des universités, vous le savez comme moi. Et cela, nous avons senti ce besoin dans la mesure où il fallait éviter la balkanisation des matériels, la dispersion des efforts, et tout ceci pour aboutir, au fond, à la rentabilité économique, certes, mais surtout à l'efficacité pédagogique du système. Et l'audiovisuel, en fait, devenait ainsi un système de communication et l'université une institution de communication. Le CAV, lui, devait, au fond, gérer les moyens, les matériels, les documents, faire l'inventaire de ces matériels, les entretenir, en assurer donc la maintenance. Deuxième tâche, fournir un soutien technique et éventuellement pédagogique aux enseignants, qui utilisaient l'audiovisuel dans leurs cours et leurs recherches. Car nous avons toujours eu cette idée que l'enseignement et la recherche, surtout dans le supérieur, devaient être nécessairement liés. Troisième mission, assurer la production en lourd, c'est-à-dire celle qui nécessite des matériels importants, des locaux spécialisés et des techniciens de niveau professionnel. Autre mission, apprendre aux enseignants, ce qui n'était pas toujours le cas, car il faut toujours se rappeler qu'il s'agit de 40 ans en arrière. Apprendre aux enseignants à se servir de ces langages et de ces moyens. Et enfin, dernière mission, à participer vraiment à l'enseignement de l'audiovisuel qui était rattaché à la aux techniques de la communication. Au niveau national et international, là, nous avions envie de donner vraiment de la crédibilité à notre projet afin d'en assurer la réussite. Et je crois que c'est ce qu'on a mis en place à cet échelon qui a enlevé la décision à la fois du cabinet du ministre et de mes décideurs de ma direction. Nous avons décidé d'établir des liens non seulement directs mais permanents avec les services de radio-télévision nationaux, les télécoms et surtout obtenir l'accès des enseignements supérieurs aux grands organismes étrangers que sont le Conseil de l'Europe, l'OPELF, on en dira un mot, utiliser si possible les satellites Symphony en direction des pays étrangers avec lesquels l'université française et travailler déjà. C'était également, par cette voie, donner à l'enseignement supérieur, français bien sûr, un moyen de s'affirmer davantage à l'étranger, et ce, par le canal du ministère lui-même. Car les relations, jusque-là, qui étaient établies, l'étaient par le CNDP, ou par certains établissements supérieurs, à titre plus ou moins personnel. Donc, affirmer que l'enseignement supérieur était capable de gérer lui-même les nouvelles techniques de communication. Ce projet était certes ambitieux, hein, il faut bien le reconnaître, et on a mis longtemps à l'écrire. Mais il a été accepté très très vite, et pratiquement à la rentrée 67, et il a été mis en œuvre. Les événements de mai 68 ont un petit peu retardé sa mise en place et son développement, mais dès la création des nouvelles structures universitaires, la marche en avant a été entreprise, et cette fois avec une volonté d'aboutir. Alors justement, quels ont été les développements de ce projet une fois mis sur pied ? Le bureau de l'administration centrale a été très très vite créé et chargé des missions que l'on avait prévues. Une ligne budgétaire a été ouverte très vite. Je ne me rappelle pas exactement le chiffre que cela représentait, mais ça devait tourner, me semble-t-il, entre 8 et 10 millions de francs de l'époque. Un plan d'échelonnement sur 5 ans avait été établi. Cela plaisait bien aux financiers, car ils ne devaient pas tout de suite financer la totalité, et ça nous permettait d'autre part de mesurer l'efficacité du système et d'en assurer donc le suivi. Mais d'une façon générale, sur le plan financier, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu de véritables problèmes, et je pense donc que la ligne avait été calculée correctement. Donc, à la centrale, ça marchait bien. Le CAV, lui, qui avait participé activement à l'élaboration du projet, a joué pleinement son rôle de conseiller technique et pédagogique de mon bureau. Il a produit avec succès de nombreux films pour le téléenseignement et la formation permanente des médecins. Car là, encore un point auquel on s'était attaché, c'est que si le CAV était le producteur, les enseignants les chercheurs qui faisaient des films n'étaient pas toujours du CAV. Ils œuvraient avec les conseils du CAV, et cela permettait donc de diffuser quelque chose qui n'avait pas l'air de sortir d'un seul organisme. Et je crois que pour la suite, ça a été très important. Il y a même certains films dont je ne sais pas souvent, mais je pense à un film sur Malraux, qui avait eu ensuite une portée nationale. Il assurait en particulier la formation permanente des médecins. Alors j'en dis un mot, là cette formation était importante car le rassemblement des médecins n'était pas toujours facile. Et le professeur Léger, qui était un chirurgien de l'hôpital Cochin, avait créé une sorte de staff qui permettait d'établir justement une formation précise, échelonnée, adaptée à diverses catégories de spécialités. Ces émissions ont été régulièrement diffusées d'abord le dimanche avant la messe, puis en fin de soirée, après l'arrêt des émissions, certains jours de la semaine. Cela permettait une diffusion beaucoup plus large et les médecins pouvaient ainsi trouver également les heures disponibles pour recevoir cet enseignement. L'enseignement universitaire, lui, le téléenseignement universitaire, lui, a pris un essor très rapide. Il atteignait un public que je rappelle, un public très très large, qui est devenu très nombreux. Il y avait d'abord des étudiants qui étaient empêchés de venir à l'université, empêchés physiquement de venir à l'université pour suivre les cours, alors raisons familiales, raisons professionnelles, médicales, etc. Il y en avait un certain nombre qui étaient dans les prisons. Il s'adressait également à des auditeurs libres qui étaient inscrits à l'université, mais qui désiraient se perfectionner, mais qui ne désiraient pas passer un diplôme. Ils ne cherchaient donc pas une reconnaissance. À l'époque, il s'agissait surtout d'enseignements littéraires, juridiques, économiques. Il y avait à peu près une vingtaine d'établissements qui les dispensaient. On utilisait surtout la radio, suivant des zones et des plages horaires qui avaient été obtenues après force discussion avec le RTF. En gros, ces grilles s'échelonnaient entre 18h et 19h30, pratiquement tous les jours de la semaine, si on considère l'ensemble des enseignements qui étaient dispensés. Les étudiants recevaient en plus des cassettes sonores et des documents écrits. Ils exécutaient des devoirs et des exercices en retour. Et alors là, une petite nouveauté, toujours dans ce souci d'aller plus loin dans l'enseignement, dans la pédagogie et dans la coordination des actions, les étudiants étaient périodiquement regroupés pour effectuer des travaux pratiques et recevoir à l'intérieur de la fac un complément pédagogique. Donc les liens étaient très resserrés entre les enseignants, les élèves et les moyens mis en place. Alors bien sûr, pour obtenir le diplôme, comme il s'agissait d'un diplôme propre à l'établissement, l'étudiant devait passer les mêmes épreuves que ses camarades qui venaient au cours. Il y avait toutefois une entente de l'Est, où là, les facultés s'étaient réparties les disciplines et œuvraient de la façon dont nous étions fort heureux, c'est-à-dire ne pas obliger chaque professeur d'une discipline de l'université de s'adresser directement dans cette discipline à ses propres étudiants. L'entente de l'Est a été, à mon avis, une des réussites et un des points de départ de tout ce système de coordination et de travail en commun. Alors là, j'ai un certain nombre de tableaux que je pourrais vous donner et qui pourraient être insérés à cet endroit. Il s'agit surtout des universités qui dispensaient les enseignements de TEU. C'est une enquête de septembre 1977. Mais ça permettrait peut-être justement de savoir, par rapport à aujourd'hui, quels sont encore les gens qui sont en place. Il y avait ensuite la liste des disciplines dispensés ainsi que les grilles horaires pour la province. Alors pour coordonner, toujours la même idée, les actions des divers centres de téléenseignement, mon bureau organisait des nombreux regroupements sous la forme de petits colloques, petites journées d'études, mais qui étaient complétées souvent par une visite du centre, qui permettait d'aller voir ce qui se faisait chez le voisin. Souvent, il y avait une petite visite de la région, donc il y avait à la fois cet aspect convivial qui était créé, qui me paraissait indispensable pour que les relations soient très très, très vivantes, donc très efficaces, entre les enseignants. Nous abordons maintenant les centres audiovisuels. Rapidement, les universités ont décidé de se doter de centres audiovisuels. Ceux-ci, comme on l'avait prévu, ont joué le rôle de services communs. L'administration centrale donc finançait une partie du coût des équipements en particulier, et l'université, elle, mettait à la disposition de ces centres des moyens qu'ils prenaient sur leur crédit de fonctionnement. C'était ainsi on avait ainsi la possibilité de mieux gérer le parc et d'y associer le plus grand nombre possible de personnes. Alors ces moyens, bon, c'était des moyens importants tels que les labos de langue et les gros matériels de télévision. Les petits moyens, réservés surtout à l'achat par les universités, c'était des moyens légers tels que des magnétophones, des appareils de projection, des appareils de photos, etc. La mise en place de ces moyens nécessitait des personnels techniques. Et ces personnels techniques n'étaient pas à l'époque très 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 nombreux, toujours 40 ans en arrière, et il a fallu donc en trouver d'une part, et puis ensuite les qualifier à l'intérieur des établissements, de façon qu'ils s'initient non seulement à la manœuvre des appareils, mais également aux techniques pédagogiques qui allaient être utilisées par les enseignants avec qui ils devaient travailler. Les problèmes que nous avons rencontrés ont tenu justement aux conditions de rétribution de ces personnels. Difficulté de les recruter, mais surtout difficulté de les conserver, car lorsqu'ils étaient formés, ils avaient souvent le désir d'aller ailleurs. Comme les centres audiovisuels commençaient à s'équiper de studios, ce sont eux qui ont pris en charge l'enregistrement des cassettes sonores destinées au téléenseignement. Si bien que lien entre les CAV et les centres de téléenseignement. Tout ceci dans l'esprit toujours de l'efficacité. Et là également, des journées d'études ont été réalisées périodiquement, organisées périodiquement, et les CAV ont éprouvé alors très très vite le désir et le besoin même de se regrouper en association. Ces associations ont toujours été très très, très vivantes et efficaces. Elles se sont créées souvent à l'instigation de quelques membres de ces CAV. Je n'incite pas. L'idée était importante. Les associations se sont créées. Elles ont bien fonctionné. Et je pense pour le bien de tous. Alors, grâce à ce travail en profondeur, grâce à ces liens étroits créés, entre 70 et 78, 65% des universités s'étaient dotées de CAV. C'est déjà énorme, à partir de rien, 65%. Et il y en avait encore 30% qui avaient formé le projet de créer ces centres. Il n'y en avait que 5% à peu près qui hésitaient encore. Donc, machine lancée et résultat déjà probant. En 1978, il y avait à peu près 580 labos de langue, soit environ 10 000 cabines élèves. Là, ces labos étaient surtout en lettres, 55%, en IUT, 26%. Alors le reste se répartissait à peu près entre le droit, les grandes écoles et les sciences, et en médecine, il y en avait très peu, à peu près 2%. Mais déjà, une implantation assez sérieuse et dispersée. À la même époque, il y avait 150 circuits fermés de télévision et à peu près 170 ensembles de télé plus ou moins complexes, mais qui permettaient quand même non seulement la diffusion, mais la production de documents. Là, alors c'était surtout la médecine qui était bien équipée, 50% à peu près de ce parc était à la disposition des médecins, 13% des grandes écoles, 12% des lettres, 10% en sciences, 8% dans les IUT et 7% en droit. Et ce que nous avions prévu s'est produit. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ces centres, dès leur naissance, ont participé à l'enseignement de l'audiovisuel dans les universités sous forme de valeurs libres qui étaient acquises en complément de cours spécialisés de telle ou telle discipline ou comme élément d'un cursus d'études des maîtrises et sciences et techniques de la communication. Également, cursus dans la préparation de certains métiers tels que le journalisme et le cinéma, par exemple. Et très vite, peut-être vers 78-79, un grand nombre d'universités, enfin quelques universités au départ, mais très vite d'autres, ont délivré un cursus complet au niveau de la licence et de la maîtrise. Enfin, pour clore un petit peu ce panorama, nous avons également été présents par l'intermédiaire justement du CAV dans une organisation où l'enseignement supérieur n'avait aucun pied. C'est le bureau qui était le bureau d'agrément des moyens de l'audiovisuel. Ces appareils étaient testés ce bureau donnait une sorte de label des appareils, et c'était le CAV, en particulier Rubenac, qui était notre représentant permanent. Donc, souci non seulement de rassembler, mais de mettre un pied à peu près dans tous les organismes qui pouvaient nous permettre d'aller de l'avant. Mais c'est certainement dans les relations avec les grands organismes nationaux et étrangers que le développement a été le plus spectaculaire. Car là, il n'y avait rien. J'ai un pas en prise directe avec le ministère des universités. Nous sommes d'abord entrés en contact permanent avec l'ORTF pour étendre justement les zones de diffusion des émissions radio, de télévision et obtenir des plages horaires qui étaient favorables au téléenseignement d'une part et à la formation permanente des médecins. Et puis également la possibilité de produire tous les films qui étaient préparés, produits par le CAV de Saint-Cloud au profit des universités. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait même certains films qui ont eu une portée beaucoup plus générale que nous n'avions envisagé grâce justement à ces contacts avec le RTF. Nous avons également coopéré avec les PTT, les télécoms, le CNET, le CNES, etc., pour effectuer les premières expériences, alors là, très très importantes pour nous. Ça paraît maintenant fort dépassé, mais je les cite car ça montre l'avancée que nous avions faite. Nous avons participé à des expériences d'audioconférence, puis de visioconférence. C'était des liaisons qui étaient assurées sur l'autorité des PTT, Télécom, entre un bureau qui était dans le quartier de la Bourse à Paris et un studio qui était à Strasbourg. Par un système de retour, alors beaucoup plus classique, on arrivait à savoir si le système fonctionnait bien. Donc l'expérience était menée dans des conditions parfaites pour que tout réussisse. Toujours avec les mêmes organismes, et toujours c'est de la petite histoire, nous avons participé à la mise au point du Minitel. Minitel qui maintenant est largement dépassé, mais qui à l'époque a été l'ex plus ultra. Et c'est l'IMAC là qui se crée et qui a contribué à la présentation sur l'écran des messages, choix du type de lettre utilisé, sa grandeur, sa forme, etc., l'intensité de l'éclairage de l'écran, etc. Donc tout ceci a été lancé grâce à l'aide que nous avons apportée aux télécoms. Car je rappelle que le Minitel a été lancé dans une première phase en Bretagne, dans le Finistère, et s'est poursuivi à Vélizy, très près de Paris. Donc là, les contacts étaient beaucoup plus faciles pour la mise au point. Et alors ensuite, je pense, un très grand pas en avant, nous avons pris une place à part entière au Conseil de l'Europe. Il y avait une commission, qui s'appelait Commission de la technologie de l'éducation, qui relevait du Conseil de la coopération culturelle. Alors il y avait déjà quelqu'un qui avait un pied dans la maison, c'était Lefranc, mais il faisait partie de cette commission davantage avec l'étiquette CNDP qu'avec l'étiquette enseignement supérieur. Nous avons donc pris cette place à part entière et nous avons été invités régulièrement, donc avec Lefranc, à des réunions et à des colloques de cette assemblée, tant à Strasbourg que dans diverses villes européennes, telles que Eindhoven en Hollande. Et avec Rubenacq, en 1974, nous avons été amenés à rédiger une étude sur les problèmes qui étaient posés par les échanges, justement, internationaux de software éducatif. J'ai donc été amené à parcourir, à aller dans plusieurs pays membres du Conseil de l'Europe, justement pour m'informer sur les dispositions juridiques qui étaient en vigueur dans ces pays. Donc non seulement on s'informait, mais on faisait connaissance avec encore toute une série de personnes s'occupant de cette nouvelle technique de communication. Ces études que l'on nous a demandées, et je rappelle même que j'ai été amené plusieurs fois à présider en tant que représentant du ministre, à présider les séances de ces commissions, ce qui était important pour, je répète toujours, non pas pour ma personne, mais pour l'aura de l'éducation nationale et des enseignements supérieurs en particulier. Nous étions donc bien implantés au sein de ce conseil. Établis également des liens avec l'UNESCO. Alors là, les noms, c'est Dieuzet, bien sûr, Braunschweig, Lefranc également, qui était en relation déjà avec l'UNESCO par l'intermédiaire du CIME, c'est-à-dire le Conseil international des moyens d'enseignement, qui avait été créé d'ailleurs en 1950 sous l'égide de l'UNESCO. Là également, participation à divers colloques. Un pas encore avait été franchi. Nous avons également établi des contacts, alors c'est là très très important, des contacts qui sont devenus permanents avec l'OPELF, l'association des universités partiellement ou entièrement de langue française. Le siège était à Paris. Là, nous avons pris contact avec M. Tardy. Et dans un deuxième temps, lorsque nous avons travaillé avec une satellite, avec Régine Thomas. Régine Thomas qui faisait partie de l'ODECAM. L'ODECAM, c'était l'association universitaire pour le développement de l'enseignement et de la culture en Afrique et à Madagascar. Donc vous voyez, ce pas qui était fait peut-être lentement, mais sûrement. Alors nous avons été régulièrement invités à ces colloques et à ces séminaires internationaux qui regroupaient tous les CAV de langue française. Et j'ai tenu à ce que justement le colloque de Montréal, qui a eu lieu en octobre 1974 et qui est resté dans toutes les mémoires, je pense, que j'ai tenu à ce que la plus grande partie des directeurs de CAV soient invités à ce colloque. Quelques directeurs de centres de téléenseignement sont également venus, toujours dans la même idée de voir ce qui se fait chez le voisin et d'apporter notre contribution à l'œuvre générale. Donc ce colloque de Montréal, qui avait été organisé par le directeur du centre de Montréal, qui s'appelait M. Cloutier, a été une réussite parfaite tant sur le plan de l'audiovisuel que sur le plan du téléenseignement. Les échanges ont été nombreux, fructueux. Nous avons fait beaucoup de visites à travers le pays. Et nous avons constaté, nous avons observé qu'il y avait un véritable système de communication et de production à travers tout le pays, donc en direction des universités qui souvent étaient très éloignées les unes des autres et qui en hiver avaient d'énormes difficultés pour communiquer. Alors l'OPELF a publié en 1978 un ouvrage qui a près de 700 pages, donc très important, un ouvrage qui a été réalisé par l'Institut international de la communication de Montréal et qui est intitulé « La situation de l'audiovisuel dans les universités ». La valeur de cet ouvrage, c'était qu'il avait entrepris une étude de synthèse sur les universités de langue française ainsi qu'un répertoire descriptif des 150 centres et départements qui existaient à l'époque. 150. Et là également, il serait intéressant de regarder, parmi la liste des participants, ceux qui aujourd'hui sont encore en place. Vous voyez donc ces jalons posés à l'époque et qui peuvent aujourd'hui encore être mesurés par ces listes qui ont été publiées chaque fois qu'il y a eu un rassemblement. Donc les liens se tissaient peu à peu, d'abord entre les centres français, et puis entre les Français et les étrangers. Et c'est vraiment, je pense, que c'est après Montréal que les CAV ont pris conscience qu'ils devaient s'organiser en association. Autre secteur ayant obtenu l'utilisation du satellite Symphony, il a été alors possible de mener des actions en direction de la Côte d'Ivoire, puis du Québec. Je rappelle que Symphony était né d'un programme franco-allemand de télévision, ou plutôt de télécommunication, que le premier satellite a été mis en orbite en décembre 1974 et le second en août 1975. En novembre 1978, un important colloque international, 218 participants, nous a réunis à Abidjan. Les Français étaient nombreux. Je représentais mon ministre. Il y avait en outre le directeur du CNES, le représentant du ministre de la Coopération, celui des PTT, des chaînes de télévision françaises, de la SFP, de l'INA. Alors là, on retrouve Régine Thomas, on retrouve Clergerie. Je crois que tous deux, d'ailleurs, étaient membres de l'ODECAM. Il y avait Lefranc, avec sa double casquette, CNDP et CAV. Il y avait Max Aigli, de la CCT, et puis Josette Poinsac, de l'IMAC. Il y avait également Kino de l'INRP, si je me rappelle bien, et quelques représentants de l'éducation nationale. Donc, les Français étaient nombreux comme représentants à ce colloque qui avait été mis sur pied, bien sûr, par la Côte d'Ivoire. L'intérêt, justement, de la chose, c'est que ce colloque a été le premier d'une série de trois, au cours desquels on a chaque fois fait un pas de plus pour avancer dans l'utilisation de ces satellites. Donc ce n'est pas uniquement un séminaire, si vous voulez, pour constater ce qui existe, mais à la fois de préparer l'avenir. Et ça me paraissait très très important. Et je rappelle qu'en 80 d'ailleurs, une expérience d'enseignement en direct a eu lieu entre l'Université de technologie d'Abidjan et le CNAM, et cette expérience a été un succès. Autre secteur abordé, c'est le secteur de la recherche pédagogique, secteur qui s'est rapidement développé. Les équipes de chercheurs présentez toujours des projets fort bien détaillés, avec un protocole de recherche, le coût estimé et les résultats bien sûr espérés. Ce projet était examiné par une commission justement du Conseil de l'enseignement supérieur et éventuellement du groupe de professeurs qui étaient avec moi, autour de moi, car bien sûr dans le domaine, aucune compétence. La seule chose où je pouvais intervenir, c'était de faciliter le succès du projet du point de vue financier. Alors, si le projet était considéré comme bon, il était financé en totalité ou en partie, suivant l'UER de recherche qui le présentait. Et il y avait, comme toujours, rien de neuf, des comptes rendus de recherche provisoire, intermédiaire, et un rapport final qui permettait de juger les résultats. Alors là, juger les résultats, ce n'était pas toujours évident, dans la mesure où c'est sur les lieux mêmes d'utilisation des retombées du projet qu'il fallait aller. Et c'est souvent, un petit peu avec retard, qu'on a pu en juger. Mais il y avait justement ce réseau de personnes qui œuvraient avec moi et qui étaient, eux, qualifiés pour suivre et voir si tout avait été correctement utilisé. Alors, quelques retombées quand même que j'ai pu mesurer moi-même, un petit exemple, mais qui montre le souci que l'on avait de s'ouvrir sur... du souci que l'université s'ouvre vers l'extérieur. J'ai personnellement un enfant de 18 ans, qui a 18 ans plutôt, est devenu aveugle à la suite d'un accident. Et un jour, des chercheurs de Toulouse 2 Le Mirail sont venus me présenter un projet qui devait permettre la transcription en braille de toute une série de documents en noir. Ils ignoraient totalement que j'étais intéressé par ce projet. Là, je l'ai donc étudié très attentivement, et j'allais dire personnellement, dans la mesure où j'étais en rapport avec des associations de non-voyants, en particulier l'association Valentin Ahuy, et nous avons essayé d'estimer quelles pouvaient être les retombées, à la fois sur le plan de la lecture braille et d'autre part psychologiquement sur les non-voyants. Et alors là, je suis certain que les retombées ont été bonnes, dans la mesure où aujourd'hui, les non-voyants, dont mon fils, reçoivent en braille les relevés bancaires, postaux, les factures de l'EDF et des télécoms. Donc ils ont déjà à leur disposition 4 séries de documents qui les relient davantage avec les voyants. 2 centres d'ailleurs sont dans la course, qui sont des centres des PTT et non pas de l'éducation nationale. Mais l'un a été créé le premier à Toulouse, justement, parce que le lieu d'origine de la recherche était Toulouse, et l'autre à Lyon. Ils se sont partagés la tâche à travers le territoire pour œuvrer de façon à ce que les non-voyants aient rapidement en main les documents en question. C'était donc des retombées peut-être inattendues, mais qui montraient vraiment que l'université était capable de s'ouvrir vers le monde. Je fais une petite parenthèse, car pour les handicapés, surtout les handicapés visuels, il faut bien comprendre que c'est un monde relativement fermé et que tout ce qui les met en contact avec le monde des voyants est le bienvenu, plus psychologiquement que matériellement. Mais bien sûr, il faut pouvoir, dans le projet en question, il faut pouvoir lire le braille. Alors ça n'est pas... C'est très facile à apprendre, mais plus difficile à utiliser. Il faut un toucher assez fin, et surtout intellectuellement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il faut un QI légèrement supérieur à la normale pour lire le braille intégral, c'est-à-dire lettre par lettre, et il faut largement plus qu'un QI normal que pour lire le braille abrégé, qui est un système très complexe. Donc, expérience de rénovation pédagogique. Autre expérience qui était plus, disons, plus sommaire à l'époque, nous avons lancé des expériences dès 68, des expériences en enseignement assisté par ordinateur. Et là, c'est Paris 7 en sciences et Cochin pour la biologie et l'hématologie qui ont créé des systèmes d'EDPO. En biologie, ils se sont surtout attachés non seulement à établir une sorte de banque de données, ça a permis de nos jours très facilement par les ordinateurs, mais à l'époque, 40 ans en arrière, ne l'oubliez pas, c'était quand même encore balbutiant. Alors, ils s'en servaient également pour les épreuves de passage de l'examen sous forme de QCM. Résultat encourageant, et bien que ce ne soit qu'un début, nous avons permis quand même le démarrage dans l'informatique, qui à l'époque était vraiment quelque chose de très très à part. Si l'audiovisuel n'était pas pris en compte, pas du tout, par le ministère pour les enseignements supérieurs, mais je pense que l'informatique, c'était encore plus balbutiant. Dernier regret que je peux peut-être évoquer, on pourra peut-être parler d'autres choses tout à l'heure, mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu le temps de lancer ce que j'avais appelé des banques de données. Bien sûr, tout ça aurait été dépassé aujourd'hui, mais à l'époque, chacun travaillait dans son coin, chacun conservait ses moyens, et personne ne pouvait en profiter. Or, il est bien sûr que chaque professeur tient à assurer lui-même ses cours, mais il peut quand même examiner ce que les autres ont fait, de façon à en tirer quand même quelques enseignements pour lui. Voilà donc, je pense que ce survol des étapes du développement des NTC au sein de l'enseignement supérieur, durant mon passage à l'administration centrale, ce survol montre que, lentement peut-être, mais sûrement, ces nouvelles techniques ont conquis dans les universités en France et à l'étranger leur lettre de noblesse. Quant à moi, j'ai été atteint par l'âge de la retraite en octobre 79 et j'ai quitté à regret ce service car il m'avait permis de travailler dans un domaine qui me tenait à cœur, je l'ai montré tout à l'heure, permis de travailler à cœur, qui me tenait à cœur depuis toute ma prime jeunesse. Et j'avais également tissé des liens, quelquefois très affectifs, avec tous ceux qui avaient œuvré en collaboration étroite avec moi, et qui avaient vraiment compris que on peut avancer car l'union fait la force, et surtout si l'on a foi dans ce qu'on entreprend. Et pour terminer, j'évoque quelque chose. Je ne me suis pas éloigné tout de suite du ministère. À la demande de Mme Saunier Seyité, alors ministre des Universités, j'ai accepté le poste de conseiller technique audiovisuel au sein de son cabinet. Cela m'a certes permis de continuer à travailler pendant quelques mois encore au profit des organismes que j'avais aidé à développer, mais sur le plan personnel, l'expérience a été décevante et j'ai regretté de l'avoir tentée. J'étais au fond très naïf. J'ignorais qu'en politique, certains recherchent davantage leur propre réussite que le bien de l'État. J'ai donc pris le large, souhaitant bon vent à tous. Souvenir, souvenir.